Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Allô, oui, bonjour Claudine, c'est Marion. On est en bas de chez vous, est-ce qu'on sonne à l'interphone?
Oui.
Oui, bonjour, c'est Héloïse et Marion.
C'est au premier.
Ça marche, à tout de suite.
Merci.
Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs.
Ressemblez mes parents.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
Vous aviez 20 ans.
Bah, qui on va fréquenter? Les grands-mères?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion et aujourd'hui, nous allons chez Claudine.
Tu devrais écrire ton histoire, c'est un vrai roman, enfin... Bon. Elle est pas tout à fait banale, mais bon, elle est pas non plus.
Je peux vous offrir quelque chose, un jus de fruits, quelque chose.
Claudine est une Parisienne, une vraie, une mamie de 86 ans, urbaine et connectée. En cet après-midi d'hiver, nous avons parlé de son enfance un peu à part et de la guerre, bien sûr, mais aussi des défis d'une maternité tardive et des nouvelles méthodes d'accouchement. Grâce à Claudine, nous avons fait un véritable voyage dans le temps pour nous projeter dans le Paris d'avant.
Ah super.
Je suis née en octobre 34. Moi, j'ai toujours vécu à Paris. J'ai, pour ainsi dire, toujours vécu dans ce quartier. Depuis que, pas que je suis née, puisque on a été un peu... on a eu une enfance un peu bousculée, enfin, une petite enfance un peu bousculée, puisque on a été abandonnés par notre mère. Donc, on avait un père, mais on n'avait pas de mère. Alors, notre père nous a placés chez une Doris. Et lui, il était marié de son côté. C'est un peu compliqué. Mon père habitait Paris. Elle, c'était une cousine de la personne qui nous a préadoptés, qui était la femme de notre père. Et elle est venue à Paris pour apprendre la couture, je crois, si je me souviens bien. Et bon, elle a... Avec mon père, ils ont fauté, comme on dit. Et... Mais elle était déjà mariée, elle avait deux garçons. Ce n'est fait que nous, on a deux demi-frères. Au départ, on nous avait dit que c'était des cousins, mais après, on a su que c'était nos frères. Donc, on s'est retrouvés chez cette nounou. Mon père, il ne savait pas comment faire. Et finalement, sa femme a fini par apprendre qu'il y avait deux petites filles qui étaient chez une nourrice. Alors bon, après, moi, je ne sais pas comment ils se sont expliqués. Et elle a accepté de nous adopter, quoi, de nous prendre en charge. Quoi. Donc, finalement, on a été pris en charge par cette personne, notre mère adoptive, quoi, et puis mon père. Donc, après, on a eu une vie plutôt normale, un peu bousculée, parce que mon père était juif. Donc, pendant la guerre, il a fallu qu'il se cache. Il est parti dans la zone, dans la zone inoccupée, quoi, qui n'était pas occupée par les Allemands. Et nous, on est restés toutes seules avec notre mère, puisque nous, on l'a toujours appelée maman.
Mais parce que cette dame, elle vous a adoptée quand vous aviez 5 ans?
À peu près. Je crois, oui. On y allait des fois chez... On a des vagues souvenirs avec ma sœur, parce qu'on avait une tante qui nous aimait bien aussi et qui nous prenait. Alors, ma mère ne savait pas encore qu'on existait, notre mère adoptive. Et on allait chez cette tante, qui s'appelait la tante Aurélienne. Et puis, à un moment donné, bon, cette tante, je crois qu'elle avait envie de nous adopter, mais mon père, il ne voulait pas, bien sûr. Et je crois que cette dame, cette tante, elle a écrit une lettre anonyme à la femme de mon père pour lui dire qu'il y avait deux petites filles qui étaient quelque part pour en nourrice. Et donc, mon père a été obligé de lui dire. Et donc, après, ils ont pris la décision de nous adopter.
Votre maman vous a eu à 18 mois d'écart ?
Oui.
Et tout ça dans le secret ?
Oui.
Donc, elle avait une liaison avec votre père.
Mm-hmm.
Donc, votre maman biologique était mariée ?
Après, elle était divorcée. Parce que c'est pareil, elle avait abandonné ses deux garçons.
Et vous l'avez jamais vue, votre maman ?
Je l'ai vue une fois. On était chez la nourrice. Ben, ça devait être pour mes 4 ans. Je me souviens. Il y a une dame qui a sonné à la porte. C'est moi qui ai été ouvrir. Et j'ai dit à la nourrice, il y a une dame qui voudrait te voir. Et la notre vraie mère, elle me dit, mais tu ne me reconnais pas, je suis ta maman. Moi, je ne l'avais jamais vue. Et pour vous dire honnêtement, ça ne m'a jamais manqué. Je n'ai jamais cherché. Parce qu'on a eu de l'amour avec nos deux parents. Ils étaient un peu âgés, mais bon, on a eu de l'amour, on a été choyés, même s'ils n'étaient pas très riches. Mon père était sculpteur de métier. Son vrai métier, c'était sculpteur. Mais bon, il n'en vivait pas beaucoup. Et après, il a été représentant en maroquinerie. Mais son vrai métier, c'était sculpteur.
En fait, votre maman vous a mis au monde toutes les deux et vous a placé immédiatement. Et avec
elle qui nous a placés, c'est notre père. Parce qu'elle, elle ne s'est pas occupée de nous du tout. Puisqu'un jour, la nourrice est allée la voir parce que mon père, il devait être acculé, il ne devait plus avoir d'argent, il ne pouvait plus payer la pension. Elle est allée la voir et je me rappelle, elle nous avait emmenés. Et je me rappelle, j'ai encore ce souvenir, la nounou nous a laissé. Ils n'avaient pas peur à l'époque, hein. Deux petites gamines toutes seules, devant le casino. Et je revois très bien ce casino, on y retournait depuis. Et elle est allée voir cette personne pour lui dire, écoutez, vous les reprenez ou vous me donnez quelque chose parce que moi je ne peux plus. Et notre mère a dit, vous n'avez qu'à les mettre à l'assistance publique. C'est une femme qui n'avait pas du tout la fibre maternelle. On ne l'a pas su tout de suite qu'on était... adoptée. Comment elle l'a su, ma sœur ? C'est la voisine du dessus, je crois, qui lui a dit. Alors notre père, il a été obligé de nous le dire. Donc, le départ, c'est ça, quoi. C'est une vie un peu ballottée, mais bon. Après, bon, là, cette période-là, bon, il y a eu la guerre. Je me souviens, la guerre en 39, quand il y a eu la déclaration de la guerre, on était encore chez la nourrice à l'époque. Et on est parti au moment de l'exode. On est parti sur les routes. Donc j'ai le souvenir qu'on était sur les routes, ça je m'en rappelle très bien. Et puis je sais plus, il y a eu le pont pour traverser la Loire qui a été bombardé. Donc on n'a pas pu passer, on est retourné. Enfin, on a été sur les routes pendant je ne sais pas combien de temps. Moi, j'ai pas la notion du temps à cette époque-là. Je sais qu'après, on est revenu, qu'elle voulait aller à Paris pour retrouver une de ses sœurs, qu'on s'est retrouvés embarqués dans un train de marchandises, je me rappelle. Notre père, il est parti donc, dans le sud-ouest, en zone libre. Alors nous, on est restés 1 ou 2 ans. Toute seule avec notre mère adoptive, puisque là, on était parti de chez la nounou. Et au bout d'un moment, on est allé rejoindre notre père. Mais comme il était dans une pension de famille et qu'ils n'avaient qu'une chambre, ils ne pouvaient pas nous garder, nous. Mais ma mère a voulu aller le rejoindre. Et donc, nous, on nous a mis en pension dans une... C'est un orphelinat. C'était un orphelinat, et l'orphelinat où on aurait dû être avait été réquisitionné par les Allemands, et on s'est retrouvé à Casteljaloux dans un hospice de personnes âgées Ah, bah oui, là, on n'était plus abandonnés, mais ils ne pouvaient pas nous prendre avec eux parce qu'ils n'avaient qu'une chambre. Dans une chambre, c'est une pension de famille, ils n'avaient qu'une chambre, ils n'avaient pas de cuisine, ils avaient un petit coin pour faire la cuisine, mais bon, ils nous prenaient de temps en temps, puis notre père, il venait nous voir régulièrement quand même. Là, on savait qu'on n'était pas abandonnés. Alors, on est restés 2 ans, mais ça a été dur, ces 2 ans. Avec ma sœur, tous les soirs, on tournait autour du cloître et on pleurait toutes les deux, et on pleurait, et on pleurait. Et les autres, elles nous disaient, parce que toutes les gamines qui étaient là, les 3/4, elles étaient abandonnées. Alors elles nous disaient, ah oui, mais vos parents, ils vous disent ça. Ils vous disent qu'ils viendront vous chercher, mais non, ils ne viendront pas. Moi, mon parent, il m'avait dit pareil, et puis ils ne sont jamais venus me rechercher. Alors on pleurait toutes les deux, on pleurait. Ça a duré 2 ans. On allait à la messe le mardi, le vendredi, je me rappelle. Il fallait se lever à 6h du matin, il faisait froid l'hiver, on avait froid, on avait attrapé des engelures. On était en zone libre, mais il y avait quand même de... Enfin, c'était surtout la dernière année, il y avait les maquisards, il y avait quand même les Allemands. Et je me souviens toute une journée où les Allemands étaient venus chasser les maquisards jusque dans l'hospice, puisqu'on nous avait massés dans la chapelle, parce qu'ils avaient réquisitionné une salle pour mettre les maquisards qui avaient été tués par les Allemands. Alors bon, on a des souvenirs comme ça, mais pendant l'exode, je me souviens d'une... Justement, on est passé juste après le bombardement, et d'une main plantée dans la terre, comme ça. Une personne qui avait été bombardée, elle avait dû avoir la main arrachée, et il y avait une main comme ça. Je n'ai pas souvenir d'avoir vraiment tremblé pendant la guerre. Par contre, on a souffert de la faim. Ben là-bas, en pension, déjà le matin, c'était pas du café au lait, c'était, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était pas du café, il n'y en avait pas. Alors mon père, il nous amenait du beurre, des petits... Alors on est allé parcimonieusement le beurre.
Et la fin de la guerre, vous vous en souvenez?
Ah oui, ben, on était en pension. Enfin, nous on dit, oui, on était toujours à Casteljaloux, là. Et on a entendu les cloches de l'église sonner. Je me rappelle, on s'était fait vacciner contre le DTCOC, là, les piqûres qui font très mal. Et on était dans les dortoirs. Et on sautait sur les lits, on était vachement contents. On était petits, mais bon, on savait que la guerre, ça y est, c'était fini, quoi. Et je vous l'ai pas dit... Mais finalement, je crois que mon père, il me semble qu'il ne nous avait pas reconnus au départ. Puisqu'on s'appelait Lecoq. Pendant qu'on était en pension ou avant, il a fait des démarches pour nous adopter. Et je me souviens, on était en pension et il nous avait dit, je vous envoie 4 enveloppes avec le nom Lecoq. Et quand ces 4 enveloppes sont épuisées, je viendrai vous chercher et on rentrera à Paris. Et effectivement, au bout de la 4e, il est venu nous chercher. Et à partir de ce moment-là, on a changé notre nom. On ne s'appelait plus Lecoq, on s'appelait comme notre père, Esapov. Ben, nous, on était contentes. On était contentes parce que on était surtout contentes de partir de là-bas. Enfin, voilà le début de notre vie.
De cette venue au monde si particulière, Claudine a tiré une puissante force de vie et un lien indéfectible avec sa sœur. Après cette période de guerre, d'exode et de pension, les deux petites filles peuvent enfin rentrer à Paris dans leur nouveau foyer.
Après, on est rentré à Paris. Alors là, bon, la vie a été, normale, quoi. On a eu une vie tout à fait normale, quoi. On a été à l'école, mon père s'occupait bien de nous, il venait voir les maîtresses. On a vraiment eu des parents qui ont fait vraiment ce qu'ils pouvaient pour nous. Bien sûr, en plus, quelque part, ils étaient larges d'esprit. Ils étaient larges d'esprit, mais bon, il y avait des choses qu'il ne fallait pas. Il a dit à ma sœur, toi, tu feras de la couture et moi, tu seras dans les bureaux. On n'a pas pu choisir... ce qu'on voulait, quoi. Mais bon, c'était l'époque, mais moi, j'en ai jamais vraiment souffert, ça me plaisait après tout.
Et vos parents, ils étaient amoureux?
Bon, ça, je ne peux pas vous dire. À l'époque, on ne montrait pas. C'était... On habitait rue de Vaux, c'est un peu plus bas. Juste en face le collège, là, il y a un collège un peu plus bas. On habitait juste en face, là. Donc...
Comment c'était Paris à cette époque?
Bon, moi, je me souviens, il y avait le tramway. Il n'y avait pas ce tramway-là, il y en avait un autre. Il y avait encore des voitures à cheval, mais je me rappelle, ils livraient les pains de glace. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. Enfin, nous, on n'en avait pas. Ici, c'était ce qu'on appelait la zone. C'était des terrains vagues. Il y avait des petites baraques, là, plus bas, juste en face où mes parents habitaient. C'était des petites baraques et il y avait une dame qui élevait des chèvres. C'était un peu la campagne, c'était la campagne même. Il y avait les blanchisseuses. Je me rappelle, ma mère, elle prenait une blanchisseuse qui venait toutes les semaines. Elle prenait son linge, elle lui lavait, elle lui repassait, parce que ma mère était quand même fragile. Puis les draps, tout ça, elle ne pouvait pas les laver. On n'avait pas de machine à laver à l'époque. Hein. C'est venu tard, les machines à laver. Je suis nulle en dessin, mais alors, plus que nulle. Franchement, je dessinerais plus mal qu'un enfant. Je ne sais pas dessiner, j'écris très mal parce que j'étais gauchère quand j'étais petite et à l'époque, on n'avait pas le droit.
Ça veut dire quoi ça, pas le droit?
Vous n'avez pas le droit d'écrire de la main gauche, il fallait écrire de la main droite. Si tu écrivais de la main gauche, tu recevais des coups de règle. Mais j'écris très très mal et je fais encore des choses de la main gauche, pas beaucoup. Lancer quelque chose ou prendre un ballon, je le fais de la main gauche. Mais écrire, on m'a tellement... Mais j'écris très très mal.
Et donc, vous êtes allée à l'école?
Après, ben, nous sommes allés à l'école, ici. Moi, on a été ici, là, il y a une école, là.
Une école de filles?
Ah oui, oui, à l'époque, garçon-fille, on était séparés. Hein. Et puis, bon, ben, jusqu'à là, bon, moi, je ne peux pas dire que j'étais brillante, mais bon, la seule difficulté qu'on a ressentie avec ma sœur, c'est que ma mère, elle était tellement bonne qu'elle recevait toujours tout le monde. Et même pendant la guerre, je me souviens, comme les sœurs de mon père, ils étaient juifs. Et quand il y a eu la rafle du Veldiv, j'ai un oncle qui a été déporté. Et j'avais une tante qui venait faire de la couture chez ma mère. Elle habitait le 18e. Et on avait un ami au-dessus, les Moliniers. Lui, il travaillait à la mairie du 11e. Et il savait quand est-ce qu'il allait y avoir des rafles. Et il avait prévenu ma mère en lui disant... Il ne faut pas que Mme Espézer rentre ce soir chez elle, parce qu'il va y avoir une rafle. Donc, et puis il y a d'autres tantes qui étaient... Comme ma mère était catholique, ils venaient chez ma mère se réfugier. Donc, il y avait toujours du monde chez ma mère quand il y avait les rafles, ou après, le cousin, comme ils habitaient la province, ils venaient travailler à Paris, ils venaient donc habiter chez ma mère. Ce qui fait que nous... On n'avait pas toujours la place qu'on aurait voulu avoir. C'est un petit peu le regret que j'ai. Mais en plus, on n'avait pas beaucoup de place pour faire nos devoirs. Comme ils n'étaient pas très riches, on avait du mal à avoir du matériel. Je me rappelle, on ne pouvait pas avoir des pots de colle. Ma mère nous faisait de la colle avec de l'eau et de la farine. Alors ça faisait des gros plats. C'était plutôt dégoûtant qu'autre chose. Mais bon... Alors c'était un peu difficile de ce côté-là. Alors bon, j'ai quand même réussi à avoir un certificat d'études. Quand même.
Chapeau.
Et pour l'époque, ça équivaut peut-être au brevet maintenant, j'en sais rien. Et puis bah, arrivé à 12 ans et demi, on allait soit en collège, soit au lycée. Alors j'ai quand même fait un an de collège, mais bon... Au bout d'un an, mon père m'a dit non, on arrête. Et il m'a mis dans un cours privé. Ce n'est pas les cours privés de maintenant. Hein. C'était une femme qui nous apprenait la sténodactylo. Mais elle avait un local et elle élevait des poules à côté. Alors bon, c'était folklore. Je me rappelle, c'était rue des Bois dans le 19e. C'était pas... Bon, j'y suis restée 2 ans. J'ai pas réussi, je sais même pas si on m'a présenté au BEP ou je sais pas quoi, enfin non. Après, bon, mon père m'a dit, écoute, j'ai vu que c'était à la Porte des Lilas, ils cherchent des secrétaires, enfin des employés de bureau, ils viennent de s'installer, on va aller voir si des fois ils embauchent. J'allais avoir 17 ans, je ne les avais pas encore. Et finalement, j'ai travaillé là pendant... J'ai réussi à rentrer là. C'est la sécurité sociale militaire. Et j'y suis restée jusqu'à la naissance de mon premier fils. Alors, entre-temps, bon... avoir quitté l'école et travailler, bon, on a fait partie d'un mouvement de jeunesse, la JOC, ça s'appelle la JOC ouvrière chrétienne, un mouvement de jeunes. Si vous voulez, la JOC, ça nous permettait de mettre en pratique l'évangile. Voilà. Au lieu d'être toujours fourré à la messe, nous, ce qu'on faisait, c'était voir ce qui se passe autour de nous, militer. Bon, pas le syndicat, parce que moi, je travaillais... Bon, j'étais pas encore assez... Mon mari a été très militant, lui, très syndicaliste. Mais bon, la JOC, c'était ça. C'était voir un peu comment on peut améliorer le sort des jeunes dans le boulot, dans... Voilà, c'est ça. C'était du militantisme. C'était un peu du syndicalisme, si vous voulez, mais pas forcément avec une étiquette. Et comme moi, je suivais ma sœur comme son ombre, je ne pouvais pas me séparer de ma sœur. Quand elle s'est mariée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne voulais pas me séparer d'elle. Parce qu'on a toujours, toujours, toujours été ensemble. Toujours. Et ça, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. C'est vraiment une bénédiction. On n'a jamais, jamais été séparés.
Pour la première fois depuis leur naissance, les deux sœurs vont être séparées par leur mariage respectif. Après la rencontre avec son futur mari aux Jeunesses ouvrières chrétiennes, le temps est venu pour Claudine de fonder sa propre famille.
C'est là que j'ai rencontré mon mari, parce que lui aussi faisait partie de la JOC, mes garçons. C'était pas mixte, mais bon, on faisait des choses ensemble. On se retrouvait des fois, souvent, mais même en dehors de la JOC, on se retrouvait quand on allait bosser, on se donnait rendez-vous sur le quai de métro, alors après on discutait. Alors mon mari, lui, c'était pas du tout son truc, il n'était jamais avec nous. Il était toujours en dehors, il n'aimait pas... il venait de la campagne, et comme sa mère, elle ne voulait pas qu'il traîne et qu'il fasse n'importe quoi, elle est allée voir le curé de la paroisse, elle lui a dit, voilà, moi j'ai un jeune de 17 ans, je ne veux pas qu'il traîne dans la rue, est-ce qu'il y a quelque chose pour les jeunes? Et c'est là où il lui a dit, mais écoutez, oui, il y a la JOC, machin. Donc il est rentré à la JOC. L'année où ma sœur s'est mariée, on ne savait pas où aller en vacances, et lui, il a dit, bah, écoutez, monsieur Zapov, moi, j'ai une maison, si vous voulez, en Auvergne, à Retournac. Si vous voulez, vous pourriez y aller pendant les vacances. Eh bien, bien sûr, on y est allé. Et lui, bien sûr, il est venu nous rejoindre. Et c'est là qu'il m'a fait sa déclaration. Voilà comment ça s'est passé, la rencontre.
C'était comment, sa déclaration?
Ah ben, il m'a fait comprendre que ben, il m'aimait, qu'il voudrait bien qu'on se fréquente. Alors à l'époque, il fallait demander l'autorisation au père, hein, attention. Il a dit oui, mais il surveillait d'un œil. Ma sœur, pareil, il la surveillait. Des fois, il nous suivait dans le métro. Et on ne le voyait pas. Ah oui, il ne fallait pas aller trop loin quand même. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. On s'est mariés au bout de 3 ans. En 57.
Et vous étiez amoureuse?
Ah bah, ben. Oui, quand même. Et alors, sa famille, ils s'imaginaient que parce que j'étais une Parisienne, et que bon, ils avaient une maison, mais bon, ils n'avaient pas des terres, s'imaginaient que je voulais mettre le grappin sur lui parce qu'il avait un petit capital. Et que nous, bon, ben, moi, j'avais rien. Hein. Mes parents, ils n'avaient rien. Alors, au début, c'était un peu tendu quand même. Alors, il avait une sœur qui était très, très rigide. Et bon, à l'époque, moi, je me mettais souvent en pantalon. Il m'a dit, tu te mets en jupe. Hein. Fait que je me mette en jupe pour aller voir ta famille. J'avais un amour de jeunette, mais bon, on n'a jamais rien eu ensemble. Lui, il était fiancé, alors on ne pouvait pas lui piquer. On ne pouvait pas lui piquer ça. Le copain de ma... c'était une amie aussi, mais bon, c'est vrai que avant c'était jamais vraiment, à l'époque ça rigolait pas, il fallait pas,
Et votre mari, il en avait eu des aventures ?
Il avait une copine, une Marthe, mais c'était la seule aussi. Non, il était assez prude, lui, pour ça. Il était assez...
Et ça fait quoi d'être maman ?
J'avais du mal à réaliser. Quand je le promenais, je disais dire que c'est moi qui ai fait ça. Comment j'ai fait pour faire ça ? Et puis en plus, bon, c'est vrai que c'était, à l'époque, c'était pas rigolo parce qu'on n'avait pas la péridurale comme maintenant. Moi, j'ai commencé à avoir les premières douleurs le dimanche matin et j'ai accouché que le lundi en fin de matinée pour le premier.
Parce que donc, vous êtes mariée en 57.
Oui.
Et vous êtes tombée enceinte.
Tout de suite.
Tout de suite. Ouais.
Heureusement que je n'ai pas accouché avant, sinon on aurait dit que j'avais fauté avant. À l'époque, ça arrivait.
Et vous n'aviez pas fauté avant ?
Non, ben, on n'osait pas. C'est surtout qu'on avait la trouille. C'est ça, surtout. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est plus facile. Mais à l'époque... Si, quand je me suis retrouvée enceinte d'Emmanuel, là, ça a été un petit peu plus difficile. Moi, j'avais 37 ans. J'avais repris des cours pour retravailler parce que je m'étais arrêtée de travailler... pour élever les deux. Pascal, elle avait 10 ans, elle allait rentrer en 6e. Jean-Luc, il avait 14 ans. Pour moi, c'était fini, quoi. Se retrouver enceinte, c'est... Par contre, les deux... Pascal, quand on leur a annoncé, un jour, on leur a dit, bon, on a quelque chose à vous dire. Jean-Luc m'a dit, oui, je sais, t'es enceinte.
Et il savait ?
Bah, il s'en est douté, il a dû entendre. C'était tout au début de l'accouchement sans douleur, où on faisait de la gymnastique, machin. Là. Puis là, Raymond, il a assisté à l'accouchement.
Il n'assistait pas avant ?
Ah ben non, ils n'avaient pas le droit, les hommes. Ça n'existait pas, on n'avait pas le droit. Les hommes, ils n'avaient pas le droit d'assister à l'époque.
Et c'était bien qu'il assiste à...
Ah ben oui. Il perdait un peu les pédales parce qu'il ne trouvait plus la poire pour appuyer, pour appeler l'infirmière. Ah oui, c'est... D'abord... L'homme, il se rend compte par où on passe quand même. Puis autrement, il arrivait, oh, ça y est, le bébé, il est tout là, tout beau. La mère, elle est un petit peu... Mais... Oui, non, c'est... Non. Bah, surtout pour Jean-Luc, c'était encore les bonnes sœurs. T'es à la Croix Saint-Simon, pour vous dire que là, j'ai dégusté. Hein.
Ah bon, pourquoi ?
Bah, parce qu'il fallait absolument les nourrir. Et moi, j'avais des crevasses au sein. Il fallait quand même, il fallait que je lui donne le sein. C'était horrible.
C'était les sœurs qui vous
ouais,
forçaient ?
Oui, c'était des bonnes sœurs à l'époque. Il y avait une dame, elle n'avait pas de lait, très peu. Et bien, il fallait qu'elle nourrisse son gamin. Le gamin, il pleurait, il n'avait pas assez. On ne lui donnait rien d'autre.
C'est quoi les techniques de l'accouchement sans douleur ?
Oh, c'est, faut apprendre à respirer, c'est comme le truc du chien, là. Il faut faire comme ça. Pour tenir sa respiration. Enfin, puis c'est aussi un petit peu mental, quoi. Bon, c'était tout au début, je ne peux pas dire que ça soit d'une efficacité extraordinaire, hein, mais bon.
Et Raymond, il a dit quoi d'avoir assisté à son premier
accouchement ? Ah oui, ça a été merveilleux. Quand il en parlait, c'était... Il l'a dit, je regrette de ne pas pu avoir assisté pour les autres. Ah oui, pour lui, c'était extraordinaire. Moi, ce que j'aurais aimé faire, c'était puéricultrice. M'occuper d'enfants ou faire institutrice d'école maternelle.
Du coup, vu qu'Emmanuel est venu, vous vouliez reprendre...
Non, je n'ai pas retravaillé. Non, les deux grands m'ont dit, ah non maman, tu ne l'as pas fait pour nous, tu ne vas pas le faire pour lui. Ils n'ont pas voulu que je retravaille. Alors bon, moi je suis restée jusqu'à ce qu'il ait 6. Moi j'ai 6 ans. Et j'ai eu une opportunité de garder des enfants. Ma sœur gardait des enfants. Et puis, elle avait retrouvé du travail. Elle m'a dit, si tu veux, tu prends ma place. Donc, j'avais repris. Donc, je gardais deux enfants avec Jean-Luc et Pascal.
Vous les gardiez chez vous ?
Chez moi, oui. C'est ce qu'on appelle maintenant assistante maternelle. Mais à l'époque, c'était pas encore une profession établie. Alors, comme mon mari était... un syndicaliste convaincu et très militant, évidemment, ça l'a bloqué dans sa carrière et il n'avait pas des payes extraordinaires. Donc, ça complétait quand même un peu le budget.
Et comment ça se fait qu'il y a eu 10 ans entre vous aviez un moyen de contraception ?
Non. On faisait attention, c'est tout. Mais à l'époque, on n'avait pas. On ne faisait même pas la méthode Ogino, parce que la méthode Ogino, automatiquement, les bébés ont tombé enceintes. Non, non, ben, je trouvais qu'on a fait attention, et puis là, ben, on a trouvé comme ça. Quoi.
Donc en fait, la seule manière de faire attention, c'est la méthode du retrait, c'est la seule
voilà,
manière.
Voilà, c'est ça. Mmh. Ah ben, la vie avec mon mari, c'était... Comment vous dire, c'était super, mais j'avais un mari, je vous dis, qui était très militant. Je me souviens, les grèves de 68, on devait offrir un vélo à Jean-Luc pour ses 10 ans. Et comme ils étaient en grève, ça faisait 3 semaines qu'ils étaient en grève, bien sûr, il n'y avait pas de paye. Alors bon, des fois, c'était pas rigolo, parce que bon, ben, les fins de mois, n'étaient pas toujours faciles. Je me rappelle, au début, il était payé à la quinzaine, et je me souviens l'avoir attendu à la sortie de la bulle, pour aller faire les courses parce que j'avais pas de sous. Ça c'était dur. Ah, il y a eu des fois, moi j'ai passé des nuits blanches parce que. Puis on se dit, moi je me disais, bon, là les enfants sont petits, mais quand ils vont être plus grands, s'ils veulent faire des études, comment on va faire? Ça, je pense que lui, il le touchait pas du doigt, ça. Il était dans son truc. Mais non, ça n'a pas toujours été rigolo. Au niveau matériel, j'irais, parce que bon, au niveau... Autrement, non, il était chouette, mon mari.
Et comment vous vous occupez aujourd'hui ?
Ah,
vous vous ennuyez pas ?
Je vais vous donner... Non, j'ai pas le temps.
Pas le temps.
J'ai une tablette. J'ai le smartphone, là, c'est mes enfants qui me l'ont offert pour Noël. Mais j'en avais déjà. C'est mon troisième. Ou mon quatrième, même.
Qu'est-ce que vous faites avec votre ordinateur ?
Ah, moi, je fais des puzzles.
Et vous utilisez Internet, vous faites...
Ah oui, 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 oui.
Ah, vous avez un compte Facebook?
Oui, moi j'ai tout. Hein. Ils m'ont installé Zenly. Vous savez ce que c'est?
Non, pas du tout.
Ben, moi, je veux savoir où sont mes enfants. Il y en a qui disent, ah oui, mais tu fliques les gens. Mais je dis, mais c'est drôlement bien. L'autre fois, j'attendais mes enfants. Je voulais savoir à quel moment il fallait que je mette à cuire ma viande. Je regarde où ils en sont. Sur la route, comme ça je vois où ils sont.
Pratique.
Ah bah c'est le moment, je peux mettre ma viande à cuire.
Et vous avez Instagram aussi?
Ah oui, moi j'ai tout. Moi.
Mais vous mettez des photos sur Instagram?
Ah bah oui. Moi je quitterai jamais Paris. Ah non, non. Oh, vous me faites mourir si je m'en vais de Paris.
Pourquoi?
Ah parce que moi il faut que je bouge. Ah non, non, moi je quitterai pas Paris.
En sortant de chez Claudine, nos têtes étaient remplies d'images de calèches, de poules et de moutons dans sa rue. On s'est rêvé à Paris dans les années 50. Claudine, c'est la résilience incarnée. Avec une enfance si particulière, pouvoir dire que la vie a été bonne et douce, belle leçon d'humilité. Merci encore Elsa d'avoir facilité cette rencontre et de nous avoir présenté ta grand-mère.
J'ai un bon souvenir de ma vie en général.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux, @mamiepodcast et par mail à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.